Dans des périodes de résolution, n'est-ce pas? Des résolutions pour 2018. La Bible, bien au-delà des résolutions, nous lance un appel, une invitation. Et quel appel? Cet appel-là, nous le lisons dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et les versets 1 à 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et les versets 1 à 8. Nous lisons ceci. Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous demandons et nous vous y invitons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus, faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur. Au verset 5, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi, personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine, en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti, car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Amen. Une version qui, dite plus littérale, dira ceci. Au reste, frères, nous vous prions donc et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus que vous avez appris de nous de quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Vous le fassiez toujours plus, car vous savez quel commandement nous vous avons donné au nom du Seigneur Jésus. C'est ici, en effet, la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés et que vous vous absteniez de la fornication. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à des passions déréglées comme les païens qui ne connaissent point Dieu. Que personne n'offense son frère ni ne fasse tort à son prochain dans les affaires, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, Dieu en effet ne nous a point appelés à la souillure, mais à la sainteté. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a donné son Esprit Saint. Amen. Alors qu'il y a des résolutions, la Bible lance ce saint appel à la sanctification, à la sainteté, à la progression dans la sainteté, à la progression dans ce qui nous vient de Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse vraiment remettre ce texte dans son contexte et vous parler de ce qui se passait en Thessalonique. Qu'est-ce que l'on sait de cette ville? Cette ville est actuellement la Salonique, en Grèce. Elle est située dans un des meilleurs ports naturels. C'est une ville stratégique, qui, à l'époque de Paul, était stratégique vis-à-vis d'Athènes, de Rome et de tous les pays de la Méditerranée. Et elle était au croisement de quatre routes principaux. Elle desservait les plus grosses villes de l'époque. Cette ville, au temps de l'apôtre Paul, était une ville commerciale. Il y avait environ 200 000 habitants. Certains géographes l'appellent la métropole de la Macédoine. Et lors de son premier voyage, sa première évangélisation à Thessalonique, on lit ça dans Actes chapitre 17, où Paul va pendant 3 semaines aller chaque sabbat. Pendant 3 sabbats, il va aller dans la synagogue et il va prêcher. Le Messie, il va prêcher Christ dans la synagogue. Et parmi là, quelques personnes, quelques hommes, quelques païens vont se tourner vers Christ. Mais les Juifs de l'époque, qui étaient bien placés, qui avaient des connaissances au niveau de la politique, vont tout faire pour arrêter la progression de l'Évangile. et vont engager des hommes de mauvaise vie pour créer le tumulte dans la ville. Paul va devoir fuir. Après ces 3 semaines à Thessalonique, il fuit. Il va fuir à Bérée. Il va y rester quelques semaines et il retournera à Corinthe. Et à Corinthe, au bout de 2 ans, il va écrire cette fameuse lettre. Au bout de 2 ans, Paul va exhorter l'église, la jeune église de Thessalonique. Et dans la première épître de Thessalonique, Paul a 3 buts lorsqu'il écrit sa lettre. Le premier but, c'est d'écarter tout malentendu à propos de ses propres motivations. Certains ont dit que, ouais, tu t'es sauvé de Thessalonique, tu t'es sauvé, tu as fui comme un voleur. Alors que non, les faits réels est que Paul, c'était une nécessité de fuir. Sinon, on l'aurait tué pour cela. Deuxième point, il va rappeler aux Thessaloniques qu'il y a maintenant une nouvelle manière de vivre. Vous vous êtes donné au Seigneur Jésus-Christ, maintenant il faut vivre d'une manière particulière qui nous est décrite dans la Bible. Et il y a un troisième point, Paul va réconforter les bien-aimés de Thessalonique concernant le retour de Jésus-Christ. Mais ce matin, j'aimerais partager avec vous le second point, le second but de pourquoi Paul écrit aux Thessaloniques, c'est-à-dire les exhorter à une vie nouvelle. Il y a des implications importantes par rapport à cette nouvelle foi, notamment la progression de la sanctification. Pourquoi pas tout au long de cette année progresser de la sanctification, se remettre au diapason de la parole de Dieu pour cette vie dans la sainteté, une vie sainte, une vie conforme à ses exigences à lui. Je ne prends pas la parole et je l'applique à mon rythme, mais je m'adapte, je mets ma vie au diapason de la parole de Dieu en ce qui concerne une vie sainte. Une vie sainte ne concerne pas une vie extérieure, mais elle concerne tout mon être, âme, esprit et corps. Je ne fais pas semblant, mais je la vis à l'intérieur. L'extérieur n'a pas d'importance en ce qui concerne la vie sainte. Elle vient de l'intérieur. Je ne peux pas dire que je vis une vie sainte extérieurement et à l'intérieur je suis faux. Je ne suis pas intègre. Je ne suis pas vrai avec le Seigneur. Je ne vis pas conformément à ses écrits. Paul va exhorter les Thessaloniques en ce point-là. Vivez dans la sainteté. Progressez. Il faut croître comme une plante croît. Nous aussi, il faut que l'on croisse dans la sanctification. J'ai été attentif tout au long de l'année passée, 2017, aux prières faites ici le vendredi soir. Toutes les prières qui ont été faites durant les jeûnes et prières des dimanches, des samedis, notamment des prières aussi à la jeunesse. J'étais très attentif et plusieurs points sont ressortis, notamment voir sa gloire, être renouvelé, voir quelque chose de nouveau. On veut, Seigneur, voir quelque chose de nouveau dans notre ville, dans notre église, dans ma vie personnelle. Je veux voir, je veux grandir, mais en particulier la sanctification personnelle. Cela est ressorti à chaque fois, la sanctification personnelle et la sanctification collective. Le Seigneur nous lance un saint appel ce matin. Le Seigneur nous donne un saint appel à répondre, une invitation à la sanctification, non pas extérieurement, mais de tout notre être, à être sanctifié, à rechercher la sanctification, comme dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, sans quoi nul ne verra le Seigneur. Tout d'abord, j'aimerais voir avec vous quelques erreurs, ce que la sanctification n'est pas, ce qu'elle n'est pas. La sanctification n'est pas l'effort, n'est pas le résultat de l'effort humain, ni de l'ascétisme. On voit ça dans la Bible avec les Esséniens. C'est un groupe de personnes juives qui ont décidé du jour au lendemain de se mettre à part, de se mettre à l'écart dans le désert, de vivre chaque jour des ablutions, se laver constamment et de vivre de rituels. Ne pas prendre de femme, ne pas vivre d'argent, se nourrir d'insectes, de miel. Ils vont se mettre à part et ils vont vivre de cet ascétisme-là. La sanctification n'est pas cet ascétisme. La sanctification n'est pas également une suite d'interdits. J'aimerais souligner aussi que la sanctification, elle n'est pas la perfection. La sanctification n'est pas la perfection. Certains prônent le moralisme. Le moralisme n'est pas la sanctification. Le moralisme met à l'excès la morale comme somme de tout pour avoir un bon comportement. Elle se résume à croire que la sanctification, elle peut se résumer à avoir un bon comportement. J'ai un bon comportement, donc je serai plus saint. Non. La sanctification n'est pas le moralisme. L'essence du moralisme, c'est de croire que l'on peut être sanctifié ou même justifié par une bonne conduite. D'ailleurs, c'est ce qu'on prône actuellement. Nos politiciens prônent le moralisme. Et il y a un bon comportement. Mais la sanctification, je le rappelle, le moralisme n'est pas la sanctification. Le perfectionnisme n'est pas la sanctification. D'ailleurs, c'est une erreur de croire que nous pouvons être parfaits ici-bas. Il y a certaines églises évangéliques qui prônent le perfectionnisme, qui disent que au moment où je crois, je suis instantanément sanctifié, je suis libéré du péché et je peux vivre comme ça, sans progresser. Il n'y a plus de progression. Je suis instantanément sanctifié et c'est fini. Sur quoi ils se basent ? Il se base sur le serment sur la montagne où Jésus dira « Soyez parfaits comme votre Père est parfait. » Mais c'est là aussi une mauvaise compréhension des Écritures. Parce que le mot « parfait » ne signifie pas être parfait ici-bas. Mais c'est un voyage, c'est un processus. Je tends à la perfection, mais je ne peux pas être parfait ici-bas. Le mot grec traduit littéralement ça. C'est un voyage spirituel. Je tends à être parfait. Je deviens parfait, mais je ne serai pas parfait ici-bas. Je serai parfait lorsque le Seigneur viendra me prendre et lorsque je serai avec lui. Là, je serai définitivement parfait. Mais sur terre, non. Il se base sur ce verset-là pour dire qu'on peut être parfait ici-bas. Ils disent également que la délivrance du péché extérieur et intérieur est assuré. Lorsque j'ai accepté Christ, je ne peux plus pécher. C'est impossible. Je ne peux plus avoir de mauvaises pensées. Je ne peux plus pécher. C'est absurde. Beaucoup d'églises sont en plein dedans. On voit des prédicateurs prêcher ça. On voit également dans la théologie de la prospérité, où ils prêchent cela, où ils disent que quand vous venez au Seigneur Jésus, vous serez délivré complètement, vous serez saint, vous serez parfait. Mais si on les met au défi, je ne pense pas qu'ils seraient parfaits. Il y a par exemple un pasteur d'une des plus grandes églises au Texas qui a souligné sa fidélité à cette doctrine du perfectionnisme. Un journaliste lui dira, alors, c'est un journaliste qui l'interroge, et il dit ceci, « Alors vous me dites, nous sommes tout juste de vieux pécheurs sauvés par la grâce. » Et lui dira, répondra, « Non, la vérité, nous étions des pécheurs. Nous étions des vieux pécheurs. » Mais puisque nous sommes allés à Christ, nous ne sommes plus des pécheurs. Certes, nous pouvons tous faire des erreurs, mais cela ne fait pas de nous des pécheurs pour autant. La nature divine est en nous. Mais ce n'est pas biblique. La sanctification n'est pas la perfection. Comme je dépends de Dieu pour le salut, comme je dépends de Dieu pour ma justification, je dépends de Dieu également pour la sanctification. Ce n'est pas des efforts humains, ce n'est pas mes propres efforts qui m'amèneraient à que je sois saint, mais c'est Christ qui agit en moi dans cette pour me sanctifier, pour m'aider à vivre une vie nouvelle. Je dépends de Christ, je dépends de Jésus pour cela, pour la sanctification. Je n'essaye pas d'améliorer la chair, mais je dépends de Christ. Mais qu'est-ce que la signification ? Qu'est-ce que la sanctification ? C'est se purifier, se séparer de toute souillure, de tout mal. C'est être rendu saint. C'est être rendu saint. C'est se donner complètement à Christ. La première chose, c'est se donner. C'est le synonyme de la consécration. Quand je me consacre, ce n'est pas que mon corps que je consacre. C'est tout mon être entier. C'est toute ma vie, c'est toutes mes pensées, c'est toute ma force, mon être, mon esprit et mon âme que je consacre à l'Éternel. C'est cela, être sanctifié. Ce n'est pas tout simplement des paroles, ce n'est pas tout simplement ce qui est apparent à l'œil. Mais c'est toute une vie qui se consacre à la sanctification. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. » C'est un combat à long terme. Il y a un combat à long terme avec les passions de la chair. Il y a une exhortation aussi à faire mourir les actions du corps, les œuvres de la chair. Romains chapitre 8 et les versets 13. Dieu nous appelle à faire mourir les œuvres de la chair. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas vivre dans la sanctification, dire que tu vis dans la sanctification, alors qu'à l'intérieur, tu ne le vis pas. La sanctification nous vient de l'extérieur, nous vient d'un être supérieur, nous vient de Jésus-Christ qui vit en nous. Il y a là trois phases de la sanctification. Il y a trois phases de la sanctification, comme on peut le lire dans la Bible. Il y a tout d'abord le premier point, c'est la sanctification de position. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que Hébreux chapitre 10 et le verset 10, c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché, grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. C'est-à-dire que lorsque j'ai cru en Christ, Dieu ne me voit plus moi, mais il voit Christ en moi. C'est pour cela que, en Jésus-Christ, je suis saint. C'est pour cela que les apôtres appelaient les frères et sœurs les saints. Nous sommes saints, mais de position en Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que je ne vais plus pécher. Au contraire, nous vivons avec ce corps ici-bas qui parfois immerge, revient à la surface. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'impératifs dans les épîtres qui nous disent « faites mourir les passions, faites mourir les œuvres de la chair. » Parce que nous vivons encore ici-bas dans ce corps mortel, dans ce corps qui on a reçu d'Adam, cette nature pécheresse. Il y a la sanctification qui est progressive. Maintenant que je suis en Jésus-Christ, je suis saint. Mais maintenant, je tends à progresser dans la sanctification. Et cela, elle est progressive, comme nous le rappelle Paul. Ayant donc de telles promesses, 2 Corinthiens chapitre 7 et le verset 11. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et il y a la troisième phase, celle qui est absolue et définitive. Lorsque nous serons avec le Seigneur dans les cieux, dans cette nouvelle terre, comme nous l'a été rappelé, nous serons parfaits. Et notre sainteté sera parfaite, parce que nous serons en présence de notre Dieu. Mais ici-bas, nous sommes dans cette deuxième phase de progression. Le Seigneur lance un appel, une invitation ce matin à progresser. Si tu ne le fais pas, il t'encourage à te donner corps et âme à la progression dans la sainteté, à mener une vie sainte. Depuis que la France s'est séparée de l'Église, mais non seulement de l'Église, c'est séparé de ce Dieu qui est saint. On a enlevé toute notion de sainteté et qui a laissé les portes ouvertes à l'essor de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans notre beau pays. On a nié, on a gommé que Dieu était saint. Et maintenant, tout le monde est libre. On est dans un pays libre où on peut faire ce que l'on veut. Mais la Bible nous prescrit de mener une vie qui est sainte et qui est conforme aux normes et aux exigences divines. On ne peut pas parler de sanctification sans parler du Dieu qui est saint. Ignorer que Dieu est saint, c'est laisser le péché augmenter en nous. Il nous faut nous rappeler ce matin que Dieu est saint. Les séraphins s'écrient en sa présence, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. » C'est ce qu'il est. Dieu est saint. Il est parfait, il est absolument saint. Il n'y a rien en lui de ténèbres. Il n'y a rien en lui qui soit péché parce qu'il est parfait. Et il nous faut comprendre cela ce matin pour pouvoir progresser dans la sanctification. Dieu est saint et sa sainteté consiste à être d'une pureté morale entière. Il ne sera jamais atteint par le mal. Tout est parfait en lui, comme dira Habacuc au chapitre 1 et le verset 13. Tu as les yeux trop purs pour voir le mal. Jésus va parler de son Père comme le Père saint. Jean 17 et le verset 11. Je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père saint. Anne, dans sa prière, dira ceci, « Nul n'est saint comme l'Éternel. » 1 Samuel, chapitre 2 et le verset 2. La sainteté morale de Dieu est absolue. Les quatre êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Apocalypse, chapitre 4 et le verset 8. Cette sainteté se manifeste par la haine du péché. Quand nous comprenons que Dieu est saint, nous commençons à avoir de la haine pour le péché. On commence à voir ce qui ne va pas dans ma vie et à demander sa grâce afin qu'il me sanctifie encore, qu'il me purifie encore, qu'il m'aide à progresser. Peu importe l'année de conversion, si nous nous encourage ce matin, lance un appel, qui répondra présent? Vous le faites déjà, gloire à Dieu, progressez encore. À grandir dans la sainteté. Cette sainteté, comme je l'ai dit, se manifeste par la haine du péché, comme on peut le lire dans le livre des Proverbes. La voix du méchant, Proverbe 15, verset 9, la voix du méchant est en horreur à l'Éternel. Et au verset 26, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Dieu punit le pécheur, mais parce qu'il est saint, il est le pécheur. Il est le péché. Quand on lit l'Ancien et le Nouveau Testament, on voit ce suprême appel de Dieu à son peuple. Tout d'abord au peuple d'Israël et dans le Nouveau Testament à l'Église. Ce suprême appel dans les temps que nous vivons à la sanctification. Lévitique 11, versets 44 à 45. Soyez saints. Je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Soyez saints, car je suis saint. L'appel suprême pour nous bien-aimés, à ne plus vivre que de paroles, à ne plus vivre que extérieurement, mais à manifester par sa grâce, à progresser dans la sanctification, à ne pas être conforme à ce siècle présent. Dieu veut encourager le jeune à progresser dans la sanctification. Même si c'est dur, il t'encourage ce matin. Continue. C'est vrai que ce n'est pas évident ce que tu vis avec tout ce qui t'entoure, mais Dieu t'encourage à progresser, à aller de l'avant. Couple, homme, mari, époux, épouse, à progresser dans la sanctification. Mes bien-aimés âgés, à progresser également dans la sanctification. Cet appel est pour tous, à progresser dans la sanctification. Mais quels sont les moyens? Comment progresser? Je l'ai dit tout à l'heure, la Bible nous encourage à faire mourir les œuvres de la chair. Romains chapitre 8 et les verset 13 dira « faites mourir les œuvres de la chair, faites mourir ces passions déréglées, faites mourir tout ce qui appartient au péché dans notre corps. » Mais on pourrait se dire, mais comment faire mourir? D'autres l'ont compris littéralement. D'ailleurs, une branche du catholicisme en prie littéralement et du coup, ils se flagellent. Ils se donnent des coups pour pouvoir acquérir cette sanctification. Mais dans ce contexte-là, il n'est pas bon de le prendre littéralement, mais de le prendre au sens figuré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire de couper toute source qui alimente le péché. Par rapport, je dis un exemple quelconque, par rapport à la... On voit que le sexe prend vraiment le dessus dans notre société. La pornographie prend vraiment le dessus. Mais comment faire mourir les œuvres de la chair en coupant ce qui alimente cela? Couper ce qui alimente, ce qui va nous amener à pécher, ce qui va nous amener à retomber dans des écueils. Il faut couper à la racine tout ce qui va alimenter cela. Ça peut être la pornographie, du coup je vais couper tout ce qui va me rapprocher de cela. Peut-être l'alcool. Je vais couper toute source qui va m'encourager à prendre de l'alcool. Faire mourir, c'est couper à la racine, par sa grâce, avec la force qu'il nous donne, à couper à la racine tout ce qui pourrait alimenter les œuvres de la chair, les passions mauvaises. Qu'est-ce qui alimente tes pensées qui sont mauvaises? Il faut les couper à la racine. Une fois coupé à la racine, il faut s'alimenter des paroles de Dieu. C'est pour cela que le perfectionnisme n'existe pas sur terre. Sinon, Abraham aurait été un homme sans erreur. Sinon, le roi David n'aurait pas péché avec Bathsheba. Tous ces hommes sont tombés dans l'écueil, mais ils se sont appuyés sur les promesses de Dieu. Ils se sont appuyés sur la parole. Mais bien aimé, la parole reste toujours la norme. Elle est la norme en matière de vie, d'éthique, pour ma sanctification. Je crois en elle, je crois en ses promesses. Lorsque je suis faible, lorsque je n'y arrive pas dans un domaine précis de ma vie, la faiblesse, où est-ce qu'elle me conduit? Elle me conduit à genoux. Où ça? Dans le lieu secret. Comment? Par la prière. Ma faiblesse, elle me conduit automatiquement dans la prière, à genoux, à implorer sa grâce. Seigneur, je m'appuie sur cette parole. Tu m'as donné la victoire. J'ai la victoire en toi maintenant, à genoux. J'attends que tu me donnes la victoire. Je commence à prier. Et lorsque tu commenceras à prier, je crois que Dieu fera son œuvre. Dieu commencera son œuvre. Dieu commencera à te fortifier, à agir puissamment. Et il se glorifiera à ne pas accepter le compromis, à refuser le compromis et à marcher d'une manière pure, sainte. Fini le compromis. Je suis tout entier, je suis tout intègre dans les voies de l'Éternel. Et je veux progresser. D'ailleurs, littéralement progresser, c'est aller au-delà de l'attente. C'est ce qui est surprenant, c'est aller au-delà de l'attente. Je ne me contente pas du peu, mais je veux plus. Je suis assoiffé, Seigneur, de sanctification, d'être sanctifié. Je ne veux plus marcher à la manière du monde, mais je veux progresser plus dans ce chemin que tu as tracé. N'est-ce pas ton désir? C'est mon désir. Et je veux progresser encore. Si ce n'est pas ton cas, je t'encourage. Le Seigneur t'avertit à marcher d'une manière digne de l'Évangile. À marcher non pas de corps, non pas extérieurement, mais de tout ton être, à être vrai devant le Seigneur et à marcher véritablement. Nous sommes sanctifiés par sa parole. D'ailleurs, Jésus dira ceci, Jean chapitre 17, le verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. » Ta parole, elle est la vérité. C'est ce qu'on lit également dans le psaume 119, où il dit « Le fondement de ta parole, c'est la vérité. » Nous sommes sanctifiés par la vérité. Nous ne vivons plus dans le mensonge, mais on veut être au diapason de la parole de Dieu qui est la vérité. Et je veux être vrai. Voilà ce qui plaît à Dieu. C'est lorsque je marche dans la vérité, lorsque je progresse dans la sanctification, non pas par mes propres forces, mais parce que je demeure humble en ce qui concerne ma sanctification. Je suis dépendant de Dieu en ce qui concerne ma sanctification. Je ne dépends pas d'un rituel, je ne dépends pas de ce que je pourrais accomplir. Mes actes ne feront pas de moi quelqu'un qui est sanctifié à un haut degré. Non, c'est mon humilité face à l'œuvre de Dieu dans mon cœur en ce qui concerne la sanctification. Faites mourir. Coupez ce qui alimente le péché, ce qui alimente les mauvaises pensées, ce qui alimente la colère, ce qui alimente la jalousie, ce qui alimente les querelles, ce qui alimente les disputes, ce qui alimente la division. Coupez à la racine et nourrissons-nous de la parole de Dieu. Afin que Dieu se glorifie. Si chacun personnellement s'affaire à cela et collectivement, il ne serait pas surprenant qu'au milieu de nous, il y ait parmi nous des miracles, il y ait parmi nous des prodiges, il y ait parmi nous des baptêmes dans le Saint-Esprit, des visitations puissantes dans le Saint-Esprit, qu'il y ait parmi nous, comme au temps de l'apôtre Paul, une ville qui, par rapport à Thessalonique, une ville clé, où c'est un lieu de passage, où Dieu fera son œuvre. D'ailleurs, 2 ans plus tard, Paul dira, mais je bénis Dieu parce que l'Évangile a prospéré au milieu de vous. Alléluia. Et qu'elle prospère au milieu de nous. Qu'elle prospère sur Annecy. Qu'elle prospère sur le bassin annecien. Qu'elle prospère également sur...